France Musique.
Notre émission va commencer dans quelques instants.
Voici le jazz français.
France Musique, le jazz en France sous l'occupation. Florian Royer. Deuxième épisode, une musique tolérée.
En 1942, j'ai fait la connaissance de Boris Vian.
En 1942, Boris Vian a 22 ans, tout comme son ami, le clarinettiste Claude Abadie, qui l'évoque dans cette interview. Tous les deux sortent de grandes écoles, l'un a fait Centrale et l'autre Polytechnique, et eux deux représentent la figure de l'amoureux de jazz pendant l'occupation. Philippe Gimplovitch, historien et musicologue.
C'est une jeunesse éduquée, c'est une jeunesse qui est réfractaire au STO. N'importe comment, la plupart sont étudiants et ne sont pas soumis à aller travailler en usine. Donc ce sont des gens parmi lesquels on retrouve évidemment Boris Vian, Claude Abadie, Pierre Nourry, enfin beaucoup d'entre eux sortent des grandes écoles. On fait les grandes écoles, c'est-à-dire c'est très intéressant, hein, parce que c'est le noyau central du jazz aussi, enfin, de l'amateur de jazz. Et donc ils sont, je dirais, presque par nature anti-pétainistes, évidemment anti-nazis, ils refusent enfin, tout ce qui a trait au thème de la Révolution nationale.
J'étais revenu à Paris, en zone occupée. Et je joue un peu partout, et j'ai un jour joué avec un batteur qui m'a dit ce que ça t'intéresserait, j'ai un frère qui joue de la trompette. Le type c'était Alain Vian qui était batteur effectivement, et son frère c'était Boris. J'ai dit oui, je comprends, j'ai bien plus de sang, mais il sortait de Centrale, moi ça m'amusait. Rencontrer un ingénieur de Centrale qui joue de la trompette, ça m'intéressait vachement. Et je suis allé à Ville-d'Avray, j'ai fait la connaissance de la famille Vian, et en particulier de Boris Vian. Avec lui, ça a pris une certaine dimension, une certaine structure. Et il nous est venu l'idée de rejouer les morceaux traditionnels dans le style traditionnel du jazz des origines.
Avec des amateurs, eux aussi âgés d'une vingtaine d'années, comme Eddie Barclay, l'orchestre de Claude Abadie joue dans des tournois de jazz, des tournois souvent organisés par Charles Delaunay. Charles Delaunay, c'est le secrétaire général du Hot Club de France, une association fondée par des fans de jazz et qui s'occupe de promouvoir cette musique. Delaunay, c'est aussi le label Swing, le premier label français entièrement dédié au jazz, qu'il a cofondé avec Hugues Panassier, le président du Hot Club de France. Panassier, lui, passe presque toute l'occupation à Montauban, loin de Paris. Donc, le grand organisateur du jazz en France, c'est Charles Delaunay. Concerts, enregistrements et tournois d'amateurs, il a la main sur tout. Au fil des années, il durcit les règles de ses tournois, dans lesquels s'affrontent de jeunes musiciens de jazz, ce qui permet de repérer les futures vedettes. En 1942, seuls les compositeurs français sont acceptés au programme. Et en 1943, il faut remplir un certificat stipulant que les participants ne sont juifs, je cite, « ni de race, ni de religion ». Mais ces obligations ne sont nullement imposées à Delaunay. C'est lui-même qui les ajoute au règlement. Il s'est toujours montré très ailé, voire trop, ce qui l'a amené à en faire plus que ce que demandaient les lois de l'occupation.
L'histoire du Yacht Club de France, l'histoire du jazz français, pour ainsi dire, pendant ces 4 années d'occupation, est essentiellement française. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que tout ce qui était anglais ou américain, comme le jazz, fut interdit par les Allemands. Eh bien, par esprit de contradiction, c'est depuis 1940 que le jazz, qui jusque-là n'était goûté que par de rares amateurs, fut du jour au lendemain réclamé par un public très nombreux.
Après l'occupation, Delaunay assure que le jazz autre que français avait été interdit. Ce qui est faux. Des titres américains, traduits ou non en français, ont été joués à la radio et dans les plus grandes salles. Cependant, cette peur de Delaunay de voir les nazis interdire le jazz pour de bon l'a amené à faire des excès de zèle. Anne Legrand, historienne et musicologue.
Ce dont il avait par contre extrêmement peur, ça c'est sûr, c'était ce qu'on a appelé les azous. Parce que les azous, c'était un public bruyant, qui faisait du bruit. Dès le début, il y avait des soldats qui venaient chercher des tickets pour les concerts. Parce que donc au siège du Hot Club, on pouvait aller chercher des tickets de concert pour la salle Pleyel ou les autres salles de Paris. Et donc, ils savaient qu'il y aurait des soldats allemands dans le public et ils voulaient que le public soit calme. Et les azous n'étaient pas réputés pour un public calme et qui, justement, se différenciait du public amateur jazz, on va dire, qui, lui, venait vraiment pour la musique, alors que eux faisaient de cette musique une revendication ou répondaient à leur demande de révolte face à l'occupant.
Les azous, cette mode indissociable de l'occupation, que tout le monde adore détester. La presse de droite les décrit comme des oisifs excentriques. Le milieu du jazz les rejette aussi car ils sont incapables de faire la différence entre du bon et du mauvais jazz, selon les règles instaurées par ceux qui s'autoproclament spécialistes.
Voilà le zazou, voilà le zazou, il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à Poitiers, à votre tour, un de ces jours. Vous serez tous azous comme eux car le zazou c'est contagieux. Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain, brusquement. Et puis on pousse des hurlements. Si vous rencontrez un jour sur votre passage un particulier coiffé d'un fromage mou, tenant dans ses doigts un poisson dans une cage, c'est un zazou, c'est un zazou. Si votre épicier vous dit j'ai du gruyère, mais malheureusement il ne reste que les trous, eh ben ne supposez pas qu'il fuit de la cafetière. Il est zazou. Il est azou, il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à Poitiers. Un de ces jours ça vous prendra.
Avouons que nos azous sont une minorité bien ridicule et qui nuit à notre pays et à notre race, parce qu'elle ne possède plus aucune des qualités qui firent notre honneur. Roland Tessier, journal Les Ondes, avril 1943.
Le zazou est le produit de la brutale coupure avec la civilisation américaine. Nostalgique, le zazou se réfugie dans le souvenir. Le jazz est pour lui le décor sonore d'un rêve américain perdu. Frank Teno, Jazz Magazine, mars 1972.
Les amateurs de jazz, justement, se démarquent tout à fait des azous, parce que justement, les azous qui, dans les concerts de jazz, se comportent vraiment très mal, entre guillemets, c'est-à-dire ça fait le désespoir un peu des vrais amateurs de jazz.
Voilà, on va revenir aux azous, mais il y a un monde du jazz pur,
oui,
et puis il y a un monde du swing à toutes les sauces, en fait.
Oui, à toutes les sauces, oui, notamment représenté par les azous. D'ailleurs, phénomène essentiellement parisien, il faut le dire aussi.
L'historien Gérard Régnier, sur France Musique, en 2010. Les azous sont donc dépeints comme des amateurs de jazz ratés, ne sachant pas différencier la bonne musique des ersatz. Seul compte le rythme et l'impression de modernité. Cette mode des azous, mais aussi la grande place que leur accorde la presse, engendre une confusion dans l'esprit des Français. Le swing, dont se revendiquent les azous, devient synonyme de mauvaise musique, aux grandes dames de Charles Delaunay. Philippe Gimplovitch.
Des jeunes qui se déhanchaient étaient considérés comme des voyous, des azous. Enfin, vous voyez, n'importe comment, le mot zazou dit beaucoup de choses. Hein. C'est la synthèse, l'acronyme de jazz et de voyous. Ça donnait zazou.
Ah,
France Musique, le jazz en France sous l'occupation, Florian Royer.
Parmi ceux qui exècrent les zazous, on trouve l'intellectuel André Queroy.
C'est un normalien, donc il fait partie de la crème de l'intelligence française. C'est un musicologue, ou aujourd'hui on dit un musicographe plutôt. Il a fait des études musicales très très sérieuses auprès de Max Reger à Leipzig. Il est germaniste et par ailleurs, il est toujours entre deux guerres, pendant l'entre-deux-guerres, pendant un moment, le rédacteur en chef de la principale revue musicale en France qui s'appelle La Revue Musicale, qui est un mensuel. Donc c'est quelqu'un qui a un poids considérable dans la vie musicale française.
En 1942, André Queroy flirte avec les collaborationnistes. Il remplace même parfois Lucien Rebattet dans la chronique musicale de Je suis partout. Et il écrit une histoire générale du jazz.
La thèse de ce livre, elle est connue en tout cas des spécialistes, c'est « Ah non, le jazz n'est pas afro-américain, le jazz est français. Le jazz est né en France. Le jazz est né en France, c'est en France que tout s'est fait. » Donc, je dirais que c'est une manière de tirer gloire de quelque, alors qu'on n'en a plus, de tirer une gloire alors qu'on est au tapis.
Tout comme Rebattet dans son livre « Les décombres », Queroy est obnubilé par ce qu'il interprète comme un effondrement de la France, effondrement des traditions, des valeurs et de toute l'histoire du pays.
La pirouette, vous voyez, enfin c'est des mots par exemple, des mots ridicules, vous voyez, on parle à l'époque du jazz straight, du jazz droit. On dit, ça vient du français straight. La straight dans la fugue, c'est le moment où les lignes se rejoignent. Et puis la Nouvelle-Orléans était française. Et puis il y a des musiciens, Philippe Desbéchets, c'est un nom français, Ferdinand, Joseph Lamante, Gerald Morton est français. Et donc il y a toute une recherche archéologique presque du jazz qu'il fait vraiment d'une manière, alors je vous dis, il est brillant, il est normalien, il est capable d'écrire très vite n'importe quoi sur n'importe quel sujet, sauf que c'est toujours brillant, très fin, sauf que là il se vautre réellement.
Les thèses fantaisistes de Queroy sur les origines du jazz n'auront pas beaucoup d'écho. Après l'occupation, il ne sera pas inquiété, mais il ne retrouvera pas son aura d'avant-guerre.
Thank you.
le roi du jazz en France, c'est toujours Django Reinhardt.
Depuis qu'il n'y a plus de jazz américain à Paris, c'est moi le King of Swing.
En avril-mai 1942, le roi est à Bruxelles où il réalise l'un de ses vieux rêves, être soliste au sein d'une grande formation. Vœux exaucés avec l'orchestre du saxophoniste Fud Kendrix que l'on vient d'écouter. Au fur et à mesure que sa célébrité grandit, Django a des rêves de grandeur. Il gagne beaucoup d'argent, joue dans des salles prestigieuses, mais le format du quintet ne lui convient plus. Il veut un grand orchestre. Delaunay chouchoute sa vedette et convoque les meilleurs musiciens pour former la Django's Music, un orchestre à géométrie variable, tantôt resserré, tantôt big band, selon le son que veut obtenir le roi du jazz. Avant l'armistice, on trouvait par exemple le trompettiste Philippe Brun dans la Django's Music, mais Brun n'est plus disponible, il a pris ses quartiers en Suisse. Le pianiste afro-américain Charlie Lewis, on l'a vu, lui se fait plutôt discret. Qu'importe, Delaunay réunit les meilleurs de ceux qui sont restés pour satisfaire Django. En 1942, Charles Delaunay, jusque-là pourtant si sage et si prudent, prend une décision importante. Il est contacté par André Girard, peintre et illustrateur connu, installé à Antibes depuis que les Allemands ont pris Paris. Girard a monté un réseau de résistance, le réseau CART, et il est en contact avec le Special Operations Executive, service secret britannique chargé d'appuyer les actes de résistance dans les pays occupés. Et Girard a besoin de locaux à Paris.
C'est par ce biais-là que André Girard va contacter Charles Delaunay. Charles Delaunay pense qu'avec ce va-et-vient constant dans le pavillon de la rue Chaptal, ce pavillon peut servir de boîte aux lettres et va servir aussi donc à Francis Sutil, qui est le chef du réseau Prosper à Paris, de faire des démonstrations de montage d'armes quand le pavillon est fermé, donc au pavillon de la rue Chaptal.
Fin 42, la situation est plus que tendue. Au débarquement allié en Afrique du Nord, les nazis répondent par l'invasion de la zone libre. Les exigences de main-d'œuvre sont de plus en plus fortes et débouchent sur l'instauration du service du travail obligatoire. La relative tranquillité dont jouissaient les milieux du jazz est amoindrie. Et une grossière erreur va placer Delaunay et ses camarades résistants dans une fâcheuse posture.
Quand André Girard va aller en Angleterre, il y a une liste qui va se perdre. Et donc ça va être la dégradation du réseau CART. Il va y avoir de nombreuses arrestations en 1943, notamment la femme d'André Girard qui va être arrêtée et déportée. Elle reviendra. Et les arrestations des agents anglais courant l'été. L'ami de Charles Delaunay, Jacques Bureau, va être arrêté aussi au mois de juillet. D'ailleurs, après l'arrestation de Jacques Bureau, Charles Delaunay sera inquiété, lui, au mois d'octobre 1943. Et il va être arrêté, il ira à Fresnes.
Quand il apprend que Delaunay, qui est en quelque sorte son manager, est emprisonné, Django Reinhardt estime que son statut de vedette ne le protège plus et qu'il n'est plus en sécurité en France. En plus, il a refusé l'invitation des Allemands pour aller se produire de l'autre côté du Rhin. Après un dernier passage en studio en juillet 43, c'est le disque que l'on vient d'écouter, et puis un concert à Pleyel en septembre, Bye Bye Paris, Django fait ses valises. Philippe Baudouin, musicologue, spécialiste du célèbre guitariste.
Django, lui, il a compris ça, qu'il fallait pas qu'il reste. Il savait qu'il allait être obligé de partir en Allemagne. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il va s'en aller fin septembre, début octobre 43, et il va aller à Thonon-les-Bains pour essayer de se sauver en Suisse. Et il s'en va avec sa famille.
Près de la frontière, Django et sa femme tentent de passer en Suisse à 3 reprises, sans succès. Arrêté durant l'une de ces tentatives, il est remis aux Allemands qui trouvent sur lui un document fort gênant. Sa carte des auteurs-compositeurs de Grande-Bretagne. Car oui, rappelez-vous, juste avant la guerre, il était en tournée au Royaume-Uni. Et voilà Django emprisonné.
Alors on se demande si sa chance proverbiale va l'abandonner. Eh bien non, parce que qu'est-ce qui arrive ? Ben, y a un commandant allemand qui est amateur de jazz, qui le reconnaît et il le libère.
Mais qui est cet Allemand qui a fait libérer Django Reinhardt ? Peut-être était-ce Dietrich Schulze-Kühn, officier dans l'aviation militaire du Reich durant l'occupation. Et il n'est peut-être pas étranger non plus à la libération de Charles Delaunay, le 25 octobre 1943.
On pense que c'est lui qui est intervenu pour que Django soit libéré. Peut-être que c'est lui, est-il intervenu pour la libération de Charles Delaunay ? On sait trop. En tout cas, il était ami avec les musiciens français et les gens du Hot Club.
Alors, est-ce le même homme qui a joué un rôle dans la libération quasi simultanée de Django Reinhardt et de Charles Delaunay ? C'est probable, mais impossible de le confirmer par des archives ou des témoignages. Avant la guerre, Schulze-Kühn a créé les premiers clubs de jazz en Allemagne. Il a travaillé pour une maison de disques sélectionnant les morceaux de jazz à éditer. Durant l'occupation, quand il est à Paris, il fréquente le Hot Club de France, rue Chaptal, là même où se déroulent des activités de résistance. Il est en contact avec Hugues Panassier et il va le voir à Montauban, ce qui ne rend pas forcément service à l'image du président du Hot Club de France. L'attrait de Schulze-Kühn pour le jazz n'est pas un secret, ni pour sa hiérarchie, ni d'ailleurs pour les musiciens de jazz qui voient peut-être en lui un ami encombrant.
France Musique, le jazz en France sous l'occupation. Florian Royer.
Cette année 1943, c'est celle des paradoxes. Car si Django Reinhardt a refusé l'invitation des nazis pour aller jouer en Allemagne, son homologue guitariste gitan, Saran Ferré, lui, l'a accepté. Il part avec le tout jeune batteur Jean-Baptiste Rey, surnommé Macaque, futur pionnier du rock français. Mais en Allemagne, Macaque, sans doute inconscient, multiplie bêtises et incivilités. Les deux gitans sont renvoyés en France manu militari avant la fin de la tournée allemande. Un des membres de la bande de Saran Ferré n'aura pas la chance de survivre à l'occupation. Le violoniste Georges Effroz, que les nazis arrêteront et assassineront l'année suivante parce que juif.
Thank you.
Royal Blues, un des quelques disques laissés par George Efros. L'arrestation et la déportation, c'est aussi cela que craignait Ray Ventura, parti fin 41 pour l'Amérique du Sud, avec près d'une trentaine de ses musiciens. Sur place, l'orchestre trouve des engagements dans de prestigieux établissements, au Brésil, en Argentine ou en Uruguay. Il grave des disques et passe même à la radio. Les effectifs de Ray Ventura, dont Henri Salvador fait partie, cessent aux rythmes locaux dont ils sauront se souvenir de retour en France. En 1943, à Buenos Aires, ils enregistrent Apañeite Cavaquinho. Ray Ventura, sur les ondes de la radiodiffusion française en 1945, lors de son retour en Europe.
Nous passions trois fois par semaine à la radio Marine Vega, qui est une des plus grandes stations de Rio de Janeiro, et qui était également en connexion, si j'ose dire, avec un poste de São Paulo à Hondecourt.
C'est ça, oui.
Qui nous a permis, d'ailleurs je l'ai su par la suite, d'être écoutés même d'Europe et de France par des amis.
L'absence de l'orchestre de Ray Ventura de 1941 à 45 laisse le champ libre à d'autres formations évoluant dans le même répertoire, à la limite entre jazz et variété, et surtout comptant d'excellents musiciens. Durant l'occupation, c'est Raymond Legrand qui, avec son orchestre, tient le haut du pavé. C'est la formation attitrée de Radio Paris, et Legrand ne rate rien de la mode du swing et des azous. La chanteuse de son orchestre, Irène de Trébert, également sa maîtresse, est d'ailleurs la muse de ces mêmes azous.
Aujourd'hui est commencé, les minutes vagabondes ne connaîtraient pas de loi si l'amour du haut des ondes ne murmurait à mi-voix. Au quatrième top, on a 20 ans, au quatrième top, c'est le printemps, au quatrième top, la vie est un roman.
Mais si l'absence de Ventura profite à Raymond Legrand, l'absence du violoniste Stéphane Grappelli, bloqué au Royaume-Uni, profite à Michel Varlop, celui qui tient le violon chez Legrand. Puisqu'il n'y a plus de violoniste hôte virtuose, la place est vacante et Varlop s'y engouffre. tout feu tout flamme, Varlope est aussi fougueux que Grappelli est sage et réfléchi. Ceux qui l'avaient connu l'évoquaient bien des années plus tard.
Aimable, courtois, serviable sans la moindre ostentation, c'était un garçon bien élevé. Il était possédé par son art et ne vivait que pour la musique. Il était tout à l'opposé de ceux que j'appellerais les...
Les gratte-papier de la musique.
Ouais,
les musiciens à manche de lustrine.
Ouais, enfin, ceux qui viennent toucher leur cachet c'est sans ça. Paraître s'intéresser à ce qu'ils font.
Hein. C'est ça.
Ils vivent de la musique, mais ils ne vivent pas pour elle.
Oh, sûrement pas.
Non. Eh bien, Michel Varlope ne leur ressemblait pas, Dieu merci.
En captivité en 1940-41, Michel Varlope avait commencé la composition d'un swing concerto. 64 musiciens, plus lui, en violon solo. Mais si Varlope est omniprésent durant l'occupation, ses disques, en dehors de ceux qu'il a fait avec l'orchestre de Raymond Legrand, ne sont pas si nombreux. Le Swing Concerto, par exemple, est diffusé à la radio, mais il ne sort pas dans le commerce. Nous sommes fin 43, le manque de matières premières, les exigences des nazis pour le STO ralentissent toutes les activités, comme l'expliquait le discographe Daniel Nevers sur France Culture.
Alors à cette époque-là, les inédits sont encore plus nombreux, pour des raisons diverses. Ils sont plus nombreux parce que, quelquefois, on les a laissés dormir en comptant les éditer. Mais le manque de pâte, les difficultés d'approvisionnement, les ont fait oublier au fond des tiroirs. Et puis, lorsqu'on a pensé à les éditer, parfois les temps avaient changé et on les a laissés de côté. C'est arrivé pour un certain nombre de disques. Et c'est un peu ce qui est arrivé avec cet enregistrement de Michel Varlope du 13 juillet 43 qui s'intitule « Christiana ». Qui aurait dû être publié sur le numéro 177 de la marque Swing. Il figure d'ailleurs dans les catalogues, ce numéro, avec ses titres. Personne ne l'a jamais trouvé, pour la bonne raison, c'est que fin 43, Delaunay a été arrêté. Ensuite, quand il a été relâché, 44 est arrivé. Beaucoup de choses se sont passées à ce moment-là. Les éditions ont été remises à plus tard. Et quand on a compté en éditer ces deux morceaux, on n'a plus retrouvé les matrices. On a retrouvé les deux autres enregistrés le même jour, Mickey et Oui, la chanson d'Alix Combel, mais ces deux-là, Christiana et Chromatique, avaient disparu. On les a retrouvés plus tard, mais alors là, c'était peut-être en 47-48, il était peut-être un peu trop tard, et finalement, ce Swing 177 n'est jamais sorti.
Thank you.
après les traditions, des innovations. Cet orchestre n'est pas un jazz quelconque. Ces musiciens sont en effet les professeurs du Conservatoire international du jazz. Michel Varlop, violon. Charles-Henri, piano. Paquinet, trombone.
Vers 41 ou 42, un obscur pianiste, Charles-Henri, crée le Conservatoire international du jazz. Un nom pompeux pour une structure qui n'a rien d'international et qui surtout n'a rien à voir avec le Conservatoire national. Pour son entreprise, Charles-Henri parvient à recruter les meilleurs musiciens français. Mais sûrement utilisait-il ces grands noms pour sa publicité. Pas sûr qu'ils y aient vraiment enseigné, car ce n'est pas tout. Il y avait aussi Gus Wieser pour les cours d'accordéon, Hubert Rostin pour la clarinette et Raymond Legrand, encore lui, pour l'orchestration. Difficile de croire que ces musiciens, tous très occupés, trouvaient le temps de faire cours dans une école à peine créée. En 1943, Charles-Henri, dans un autre coup de pub sûrement, annonce que les inscriptions pour les enfants de prisonniers sont gratuites, ce qui le mènera à la faillite.
Les élèves s'inscrivent nombreux à ce conservatoire d'un style nouveau, jusqu'à ce jeune prodige de 6 ans. Et comme dans tout conservatoire, les études sont normalement sanctionnées par un concours. Innovation, ici le jury ne peut juger que par ce qu'il entend.
Charles-Henri est l'une des personnalités les plus étranges du jazz de l'occupation. Outre cet éphémère conservatoire, son nom apparaît aussi sur les disques Polydor de la période 42-43, où il supervise les séances d'enregistrement de Freddy Jumbo.
Thank you.
Freddy Djembo, c'est un musicien originaire de l'actuel Cameroun, ancienne colonie allemande. Ce qui explique peut-être sa présence en France à cette période. Il a recruté ses musiciens parmi les Antillais de Paris, ceux qui auparavant restaient souvent cantonnés au Biguin, les Guadeloupéens Robert Mavounzi, Albert Lirvat, Claude Martial ou encore le Guyanais Henri Gaudissart. Dans son catalogue de disques, Polydor annonce d'ailleurs le merveilleux orchestre noir de Freddy Djembo et son ensemble swing. Les musiciens noirs ne sont pas légion durant cette période. Leur point de rendez-vous, c'est le cabaret La Cigale, où les clients sont en majorité des Allemands. Des décennies plus tard, le tromboniste Albert Lirvat s'en souvenait très bien.
On a eu l'autorisation de faire du jazz. On disait que les Allemands n'aimaient pas le jazz, c'est parce qu'ils étaient américains. C'est complètement faux. C'était plein d'Allemands. J'étais amateur de jazz, 100%. Il y avait beaucoup plus d'Allemands que de Français. On n'annonçait pas les titres des chansons. Mais on chantait en américain. Et je vous dis que les soldats allemands qui venaient là, ils étaient au courant. Ils connaissaient les titres, ils connaissaient les morceaux. Maintenant, ceux qui n'aimaient pas ne venaient pas, évidemment. Mais enfin, c'était plein. Il y avait beaucoup de musiciens qui venaient faire le bœuf, comme on dit. Django, il venait assez souvent.
Le trompettiste afro-américain Harry Cooper avait été emprisonné lors de l'entrée en guerre des États-Unis, mais rapidement libéré car marié à une Française. À son retour de captivité, lui aussi embauche des musiciens antillais jouant à la cigale. L'un de ces musiciens, le saxophoniste Robert Mavounzi, donne même le nom de ce cabaret à l'une de ses compositions et il l'enregistre avec Harry Cooper. Et comme nous ne sommes pas à un paradoxe près, en 1943, une autre figure émerge dans le jazz français. Bon, en vérité, elle flirte plus avec le jazz, un pied dedans, un pied dehors. C'est la pianiste Yvonne Blanc, dont l'époux est le représentant de la marque Decca pour la Belgique. Le couple organise une drôle de séance d'enregistrement qui met en vedette Danny Kane, précurseur de l'harmonica dans le jazz. Danny Kane est polonais. Il est arrivé en France un peu avant la guerre. Et durant cette séance d'enregistrement, avec ses accompagnateurs, il grave plusieurs titres, dont celui-ci, Agatha Rhythm. Si cet enregistrement est anecdotique, il attire néanmoins l'attention. Un musicien polonais, avec un pseudonyme anglo-saxon, qui grave l'œuvre d'un compositeur juif américain en 1943, puisque ce titre, c'est évidemment « I Got Rhythm » de George Gershwin, mais rebaptisé. Mais qu'est-ce qu'il leur a appris à Danny Kane et à Yvonne Blanc ? Tentative d'explication. Cette séance d'enregistrement a eu lieu à Paris, en 1943. Mais les disques semblent n'être sortis qu'après la libération, sous le label détenu par Yvonne Blanc et son mari. Peut-être que, dès 1943, le couple réalise des enregistrements de jazz dans le but de les sortir sous leur label tout neuf, quand ils en auront l'occasion, et en pariant éventuellement sur un assouplissement des lois. Et de fait, les enregistrements seront bel et bien édités. Durant l'hiver 43-44, pas, ou très peu, d'enregistrement. L'activité est essentiellement scénique pour les musiciens français, y compris pour Django Reinhardt.
On l'a beaucoup engagé dans des tas de clubs, de cabarets. Alors il y a des cabarets où venaient beaucoup les Allemands, qui étaient, il y avait des cabarets qui étaient huppés, assez chers, etc. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont pu dire, mais ça a été vite réprimé, que Django aurait pu collaborer. Mais non, pas du tout. Il jouait dans des cabarets, puis il y avait des Allemands qui venaient, des officiers allemands.
Dans le troisième épisode, l'arrivée des Américains bouleversera l'histoire du monde. Et la guerre du jazz, elle, n'a pas fini de faire rage. Le jazz en France sous l'occupation. Une série de Florian Royer avec Sophie Pichon à la réalisation, Éric Boisset à la prise de son et au mixage. Merci à Élise Dubost, Louis-Valentin Lopez et Sophia Anastasio, ainsi qu'aux documentalistes de l'INA. L'intégrale de la série est disponible en podcast sur le site de France Musique et sur l'appli Radio France.
France Musique. France Musique.